milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins. Très heureuse de vous retrouver, les voisines et les voisins. Aujourd'hui, entreprendre en Afrique, avec bien sûr le retour du coach Didier Akwété, président d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. Hello, coach.
Hello, Emmanuel Bastide.
Tout le monde attend, bien sûr, Didier, vos conseils aux diplômés qui montent leur en petite entreprise. Comment dépasser les galères avec les investisseurs, trouver rapidement aussi un rythme de croissance, hein, parce que sinon, c'est bien joli de traverser la vallée de la mort, mais à un moment donné, il faut en sortir. Et appelez-nous, bien sûr, les voisins et les voisines, pour nous parler de votre vie de jeune entrepreneuse ou entrepreneur. Posez vos questions à Didier Akwété sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Et n'oubliez pas de résumer votre plan d'affaires ou business plan. C'est ce qu'affectionne plus particulièrement le coach. Et puis en deuxième partie d'émission, un débat avec vous, Didier, bien sûr, et des patrons de PME. Comment transmettre son entreprise familiale? Une vraie question économique, mais aussi d'ordre affective. Quel chef d'entreprise ne rêve pas secrètement de voir un de ses enfants reprendre le flambeau? Didier, est-ce qu'un Akwété Junior s'intéresse à Afrique Search?
Alors, je ne sais absolument pas, mais c'est surtout la pérennité de l'entreprise qui m'intéresse, avec ou sans eux.
Ouais, allez, vous avez peur qu'ils vous écoutent. Quelles sont les étapes à suivre, hein? C'est ce qu'on va essayer de voir quand on veut transmettre son entreprise, les difficultés aussi à surmonter quand on veut transmettre son entreprise. Et on en discutera avec vous qui êtes déjà dans le studio, Yannick Nyakadja. Bonjour à vous.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes de passage en France. Vous êtes directeur général de CEIB, Société Béninoise d'Électricité Industrielle et Bâtiment. Vous avez repris l'entreprise de votre père, basée à Cotonou, mais qui est aussi présente dans la sous-région. Nous serons aussi en ligne avec Moumouni Konaté, d'un autre patron de PME, fondateur et dirigeant de la Savonnerie-Parfumerie du Houé, société de produits d'hygiène à base de karité, qui est à Bobo-Dioulasso. Et puis, bien sûr, dans cette émission, comme toujours, le programme musical de Romain Dubrac et des pépites à découvrir chez 8 milliards de voisins sur RFI, bien sûr.
8 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Et tout de suite, nous donnons la parole à un futur patron de...
L'Afrique qui gagne, évidemment. Vous pensiez me piéger, Emmanuel.
Bonjour, Reynald Ballot.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Didier.
Bonjour,
Reynald. Bonjour aux patrons qui sont sur le panel.
Bonjour, Reynald. Reynald Ballot, vous êtes le créateur de Air Mobility, solution de covoiturage à Cotonou au Bénin. Vous ambitionnez de devenir le Blablacar africain. Je rappelle qu'en France, c'est quand même 20 millions d'utilisateurs, 60% d'inscrits parmi les 18-35 ans. Donc, c'est vraiment une appli pour du covoiturage qui s'adresse à une cible jeune. Il se trouve que l'Afrique est un continent jeune, mais est-ce si simple? Vous avez 30 ans, Reynald. Vous terminez une thèse à l'Université du Havre en géographie et aménagement du territoire, justement sur les mobilités partagées. On peut être chercheur et entrepreneur, donc.
Je pense que quelque part, la recherche et l'entrepreneuriat sont quand même des éléments qui vont de pair. Et là, précisément, je fais une thèse recherche-action au sein du laboratoire UMAID et au sein aussi de l'entreprise Transway, leader de l'écomobilité, l'incitation en France. C'est tout à fait le but.
Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vos parents avaient déjà une petite société de transport interurbain. Comment ça vous a donné l'idée de monter votre société, votre start-up de covoiturage?
En gros, tout le parcours que j'ai mené jusque-là, que ce soit sur l'aspect scientifique, mais aussi sur l'aspect entrepreneurial, a pour substratum l'entreprise familiale, d'où j'ai eu l'occasion de côtoyer un peu les réalités de déplacement, que ce soit sur de longues distances où les utilisateurs sont plutôt exposés à des situations de bousculement, à une situation inconfortable lors des déplacements. Et sur l'aspect plutôt déplacement domicile-travail, on a une réalité qui émerge en Afrique de l'Ouest et surtout le long du golfe de Guinée. C'est celui de la congestion urbaine et qui fait que, en moyenne, les usagers perdent au moins 3 heures par jour, que ce soit à Dakar, Cotonou, Abomey et d'autres pays voisins.
En termes simples, la galère.
la galère. Exactement.
Alors concrètement, comment fonctionne votre application, la plateforme Air Mobility de covoiturage, qui existe maintenant depuis presque 4 ans? Donc c'est une appli qui connecte les conducteurs et les passagers?
Exactement. Le principe est hyper simple, avec une démarche basique, celle de connecter des passagers et des conducteurs qui font des trajets en commun avec un système d'algorithme assez optimisé pour mettre en relation d'une manière multimodale les moyens de déplacement, que ce soit les usagers de moto, les taxis dans les gares routières, les autocars dans également les gares routières et aussi des particuliers disposant de leur propre véhicule.
Alors, par exemple, c'est Didier Akwété
est de occuper les places vides.
Didier Akwété est de passage à Cotonou. Il sort de son hôtel, il a un rendez-vous business très important à l'autre bout de la ville. Que fait-il avec votre appli Air Mobility?
Alors, c'est très simple. Il a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités avec l'appli. La première, c'est qu'il a la possibilité de faire une location de véhicule, un peu comme le Get-Around que nous avons en France, des particuliers ou des agences de location qui ont des véhicules à disposition. Et si cela ne lui convenait pas, il a la possibilité également de voir les offres de transport en mode covoiturage. Il a simplement indiqué la date, l'origine, la destination et trouvera sous forme de booking les offres de déplacement qui s'offrent à lui. Et face à tout cela, il a simplement le choix de payer par Mobile Money et de faire son trajet avec le conducteur.
Et le conducteur arrive dans les minutes qui viennent ?
Alors, c'est justement tout l'intérêt du dispositif, c'est que nous avons une démarche simplifiée et planifiée. Et nous avons également une brique VTC qui est en cours de déploiement, en cours de travail, mais qui fera certainement l'objet des questions que j'évoquerai tout à l'heure.
Alors, imaginons que Didier Akwété ait des difficultés financières. Est-ce que ça revient moins cher qu'un trajet dans un taxi ou un équivalent VTC Uber ?
C'est une très belle question. On a remarqué, de par les travaux de recherche, qu'en effet, il y a une forte partie de la population qui s'intéresse au VTC. Mais cela s'occupe, touche plus les personnes de classe moyenne, un peu supérieure. Tandis que l'offre qui est proposée ici revient à prendre en considération la couche populaire et parvenir à rentrer dans la démarche des transports populaires déjà existants depuis les années 90 et de faciliter en gros cette mise en relation avec l'usage du numérique pour déployer et développer les pratiques plutôt partagées que nous avons déjà, de manière coutumée dans nos pratiques de déplacement.
Donc ça revient moins cher en pourcentage de combien à peu près ?
On va dire, on peut faire des économies jusqu'à hauteur de 60% mensuel, sachant bien que le budget mensuel pour les déplacements dans les familles béninoises équivaut à environ 40%. Donc finalement, partager
40% du budget du ménage.
Exactement. Et cela, ce sont des chiffres de la SSATP et aussi de CNSR au Bénin. Et donc, parvenir à faire en sorte qu'il y ait mutualisation et surtout occupation des places vides, eh ben, c'est économique pour l'usager, que ce soit pour le passager tout comme le conducteur. Mais également, il y a un gain écologique que nous avons de par les capacités à pouvoir partager et à réduire l'impact écologique de chaque déplacement.
Alors, je précise que, évidemment, votre start-up, elle fonctionne sur le plan économique. Vous n'êtes pas encore bénéficiaire, mais vous prenez des commissions sur chaque réservation de trajet effectuée à travers la plateforme et vous prenez aussi une commission sur la location de véhicules. Donc, 20% sur les réservations de trajet en covoiturage et 10% de com sur la location de véhicules, que ce soit un professionnel ou un particulier. L'entreprise n'est pas encore rentable, mais vous avez gagné plusieurs distinctions, il faut le dire, notamment des prix d'entrepreneur, le premier prix de l'African Next Entrepreneur, deux autres prix aussi importants. Quelles sont vos questions précises à Didier Akwété ?
Aujourd'hui, on sait très bien qu'en Afrique, nous avons une grande tradition de partage et aussi nous avons une forme de dissémination de l'usage du smartphone. Toutefois, cet usage favorise plutôt une émergence des taxis VTC plutôt que celui des modes partagés. Du coup, on sait très bien que ces modes individualistes qui sont des taxis VTC ont quelque part des impacts. Finalement, comment pourrait-on arriver à renverser un tout petit peu la tendance et plutôt mettre en évidence la partie écologique, la partie partage que nous avons déjà en commun? Et nous avons quand même pris des mesures assez importantes par rapport aux, à la garantie de sécurité, notamment à la vérification des pièces d'identité, le suivi des trajets en temps réel, l'assurance avec NTIA, assurance Bénin et d'autres dispositifs. Et malgré toutes ces dispositions, il y a encore cette forme de réticence des potentiels passagers à passer à l'acte pour une forme d'adoption réitérée du dispositif. Et l'objectif également, enfin, mon intérêt en participant justement et en la posant à M. Didier, c'est justement de comprendre comment, d'avoir des pistes, des lumières sur comment nous pourrions quand même faciliter la consommation du covoiturage sur le territoire ouest africain.
En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'on est sur un continent qui a l'habitude culturelle du partage et pourtant le covoiturage, ça ne marche pas vraiment. En tout cas, vous avez du mal à trouver, à rencontrer réellement votre cible client. Hein. C'est intéressant, Didier, à côté, parce que la plupart des jeunes qui montent leur entreprise, en général, qui nous appellent, ils n'arrivent pas à répondre à la demande de leurs clients parce qu'ils manquent de moyens. Et là, on a l'impression qu'au contraire, tout est déployé correctement, sauf que la rencontre avec la cible client ne se fait pas. Comment vous voyez les choses, Didier?
Ouais, effectivement, enfin, de toute façon, d'abord, félicitations, Rénal, parce qu'on s'inscrit de plus en plus dans ces modes de mobilité dans les villes sont de plus en plus saturées. Et les temps de déplacement sont de plus en plus longs dans nos villes et c'est juste affreux. Et quand j'écoutais Rénal, je me disais effectivement l'idée est excellente, mais il n'a pas encore trouvé sa cible. Autant la classe moyenne supérieure qui utilise les VTC pourrait plus facilement adopter ce mode de déplacement parce que il se programme, il a un téléphone, il choisit son véhicule, il choisit une heure, donc il est dans ce mode de consommation actuellement. Autant la classe moyenne entre guillemets modeste qu'il cible est plutôt dans une consommation d'immédiateté, c'est-à-dire je vais au bord de la route, je prends une moto-taxi, je trouve un taxi qui passe, je trouve un bus qui passe, je saute dedans. Et du coup, je suis en mouvement en permanence sur le vif et donc sur le tas. Donc, il n'a pas encore, j'ai l'impression...
L'anticipation.
C'est ça, la culture, la préparation de son trajet. Donc ça, est-ce que déjà, en termes de culture et d'habitude de consommation, vous n'êtes peut-être pas en train de vous adresser à la cible qui ne consomme pas encore ce type de mode de transport? Donc ça, c'est la question à laquelle je pensais. Deuxièmement, et c'est paradoxal, parce que cette même population, quand vous êtes dans nos villes, vous voyez les taxis collectifs, à Abidjan, vous avez les Gbaka, au Sénégal, vous avez les Ouro Ouro, à Bamako,
on
bref.
On s'assied à côté d'un autre passager à
l'arrière. Les gens s'accumulent, s'entassent dans ces espèces de transports collectifs privés, mais ils les utilisent parce que c'est l'offre qui est là. Et donc, cette classe de consommateurs que vous essayez de toucher, parce que j'ai l'impression que c'est cette classe que vous essayez de toucher, comment votre produit peut s'adresser à cette classe qui utilise déjà ce mode de déplacement, donc qui a déjà l'habitude d'utiliser ce mode de déplacement? Vous lui offrez simplement un peu plus de confort. Alors vous dites, le prix, en termes d'économie, il fait 60% d'économie, je demande à voir. Parce que si vous prenez votre commission, le transporteur prend ses revenus, etc., est-ce que le modèle économique est si économique que ça
pour le consommateur,
pour ce type de consommateur?
Ces 60% d'économie, vous faites surtout la comparaison par rapport à si on prenait un VTC, un Uber en fait, Rénald.
Ouais, d'accord. Mais aussi en considérant les modes traditionnels, enfin, le transport populaire, nous avons un système qui s'adapte à chaque fois aux réalités du terrain, que ce soit le coût du carburant, mais aussi les coûts sur les trajets. Et tout ce calcul se fait de manière optimisée à chaque fois.
Mais Rénald, est-ce que vous êtes sûr que celui qui prend le Baka, comme on dit à Abidjan, ou le comment vous l'appelez, ou qui monte dans le taxi au bord de la route, qui lui prend 50 francs et il fait 3 km, il descend, il prend un autre taxi, est-ce que vous êtes sûr que votre coût est beaucoup plus... Enfin, est-ce que ce qu'il paye chez vous est plus intéressant que ce qu'il paye aujourd'hui?
Alors, il faut prendre également en considération les garanties, le système traditionnel, plutôt le système populaire.
La garantie n'intéresse pas.
Les éléments de sécurité.
La sécurité ne l'intéresse pas, c'est ça que vous voulez dire.
Ça, à mon avis, il a une obsession, c'est le prix. Et arriver où il va.
Si vous vous adressez vraiment à cette classe moyenne modeste.
Exactement. qu'il y ait une assurance. Tout à fait, tout à fait. Parce que de toute façon, l'État qui n'ont pas d'assurance, ils les prennent quand même. Les espèces de bus pourris collectifs, ils les prennent quand même. Ils n'ont pas d'assurance. Les types conduisent comme des malades, ils les prennent quand même. Donc, je ne suis pas certain que votre modèle économique soit adapté à cette population quand je vous entends. Et enfin, le consommateur en question dont nous parlons peut consommer votre produit si votre produit propose, à mon avis, la spontanéité, c'est-à-dire au moment où je sors, j'ai ce mode de transport qui est là, en termes de coût, j'économise réellement et je vais du point A au point B avec la flexibilité que m'offre tout le réseau. Il y a un système de transport un peu, enfin l'équivalent de ces bus un peu populaires, crowded, à Nairobi. Alors j'oublie le nom de ça s'appelait, peu importe. Et ils ont réussi à dessiner les parcours que vous trouvez, que vous pouvez downloader sur votre téléphone, que vous pouvez trouver dans les arts, etc. Et qui permettent aux consommateurs de faire des correspondances, de payer peu cher, avec le même système de transport collectif dont nous parlons. Et donc, si vous arrivez peut-être à cartographier des trajets, comme ils les font à Cotonou, vous offrez...
À Nairobi.
Oui, enfin, à Cotonou, c'est pour ça. Lui.
Grâce aux algorithmes.
Exactement. Ouais. Vous arrivez à cartographier leurs trajets, à créer la spontanéité du transport et la multimodalité que vous offrez à des coûts super compétitifs, j'ai l'impression que ça pourrait mieux marcher, sinon votre produit s'adresse plutôt, à mon avis, à celui qui consomme déjà du VTC et qui est prêt à consommer ce genre de transport, effectivement, qu'il organise, qu'il réserve, etc.
Ouais, parce qu'il commence à trouver que le VTC, c'est cher. Ouais.
Exactement. Et ça devient de plus en plus cher dans les villes. Après, ce que je ne sais pas, et je demande à voir, quelqu'un qui a sa voiture, généralement, il a sa voiture parce qu'il veut être seul dans sa voiture. Alors maintenant, c'est ça aussi, culturellement, il faut regarder si... Yannick a sa voiture et puis on dit voilà, il y a 4 personnes qui sont sur son trajet qui veulent monter dans sa voiture
et qui vont participer à vos frais de gazole
suis,
hein, finalement.
Je ne suis pas sûr qu'il accepte. Je ne suis pas sûr qu'il accepte parce que
Yannick est un patron pressé.
comme beaucoup de gens qui ont leur voiture. Donc là aussi, une réflexion s'impose. Qui accepte de partager sa voiture parce que écologiquement ça l'intéresse, mais je ne crois pas que ce soit sa priorité. Pour des raisons de coût.
Yannick Niakadja, vous voyez cette rencontre ou pas avec la cible d'une classe moyenne modeste et finalement un Blablacar, une appli qui propose déjà des choses assez élaborées, assez sécurisées, etc.
Moi, je pense que la cible a été mal... La cible que propose Renal ne correspond pas vraiment aux besoins actuels, en tout cas pour ce qu'il est, pour ce que moi j'en pense. La problématique, je vous donne le cas extrêmement simple. Moi, j'habite à Calavi, donc à 30 km de Cotonou. J'avais ma fille qui habitait avec moi à Calavi, à 30 km de Cotonou, qui allait à l'école française à Cotonou. Donc il y avait deux cas de figure. C'est où le chauffeur arrive très tôt le matin et récupère ma fille et l'amène à l'école. Ou le chauffeur n'arrive pas, il faut trouver une solution. D'autant plus que des fois, en tant que patron, on rentre très tard le soir. On a beaucoup de difficultés, en l'occurrence, à se réveiller très tôt le matin puisqu'il faut être à l'école pour 7h30. Donc c'est assez compliqué. Et finalement, avec un ami, c'était pas du blablacar, mais bon, finalement, on a trouvé une solution. C'est qu'on a essayé de faire un covoiturage.
Informel.
Informel, avec un ami. Donc, lui, il avait ses enfants.
Avec un ami.
Voilà. Lui aussi, il avait la possibilité, en l'occurrence, d'aller à Cotonou. Donc, il ramassait au passage tous les enfants qu'il pouvait avec le même chauffeur. Et je pense que Ronald devait regarder dans ce sens-là, en toute franchise.
Enfin,
je
pense que.
Une classe moyenne aisée, pas forcément aisée, mais qui a besoin de se déplacer vite. Et surtout, ne pas être dans je ne sais pas quelle expression utiliser, en tout cas ne pas être dans l'à peu près, mais avoir une cible qui est très claire et qui puisse lui permettre, en l'occurrence, de ne pas attendre, mais d'avoir la certitude que le temps permettra, en l'occurrence, qu'il soit à l'heure, les enfants soient à l'heure à l'école.
En tout cas, Reynald, votre ambition, c'est de devenir le Blablacar africain, je le redis. 2025, vous souhaitez vous étendre au Ghana, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, potentiel évidemment de plusieurs dizaines de millions d'usagers. Et votre équipe, pour l'instant, c'est une équipe de 10 personnes. Un tout petit mot de conclusion, Reynald, vraiment en quelques secondes.
Eh bien, je voudrais en toute humilité remercier les contributions. Et tout cela participe à l'alimentation de ma thèse, parce que je rappelle très bien qu'il s'agit d'une plateforme d'expérimentation de recherche-action et qui participera notamment à l'éclosion de ces formes de partage.
Voilà, et si éventuellement la start-up décollait, ça serait pas mal quand même. Merci
beaucoup.
Et Rénal,
vous avez intérêt à nous citer dans votre thèse. Hein.
Merci beaucoup, Rénal de Ballot.
Merci, Didier.
Voilà, et ça sera au premier qui réussira à monter cette start-up, parce qu'évidemment, il y a un énorme potentiel sur les mobilités urbaines sur le continent africain.
Énorme.
Là, c'est clair. Merci infiniment. Vous restez avec nous, Didier Akwété et Yannick Nakadja. Dans quelques instants, nous débattons d'un sujet parfois un peu tabou, la transmission des entreprises familiales sur le continent, un enjeu business, mais aussi sentimental. On se retrouve juste après Kilédjan et le griot burkinabé Sakowana chez 8 milliards de voisins.
Salut RFI, j'espère que vous allez bien.
8 milliards de voisins.
Oui, allô ?
33-7, 64-45, 51-41.
Les voisins, vous avez des idées pour le continent. Didier Akwété a de l'expérience.
Allô ? Oh, bonjour.
Nous vous écoutons, quel est votre projet ?
Il y a des grandes sociétés qui ont le monopole du lait à Brazzaville. L'idéal aujourd'hui consiste donc à faire baisser ce monopole.
Didier Akwété, un dernier conseil.
C'est très noble comme approche. Mais franchement, vous faites baisser le prix du lait, forcément, vous allez gêner.
Didier Akwété.
Il faut pas choisir la facilité, il faut transformer le continent. On veut des jeunes qui y croient, qui ont envie d'être des patrons et de diriger l'Afrique demain.
« 8 milliards de voisins, suite de l'émission sur RFI, Entreprendre en Afrique avec Didier Acouetté d'Afrique Search. Débat maintenant sur la transmission des PME familiales sur le continent avec Yannick Nyakadja, directeur général de CEIB, Société Béninoise d'Électricité Industrielle et Bâtiment. Vous avez repris l'entreprise de votre père basée à Cotonou, mais aussi présente dans la sous-région. Une entreprise de près de 80 salariés. Nous sommes aussi en ligne avec Moumouni Konaté. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et dirigeant de la savonnerie parfumerie du Houé, société de produits d'hygiène à base de karité, oui. Abobo Dioulasso.
Oui.
Et Didier Acouetté, peut-être un mot sur le contexte. D'abord, c'est vrai qu'il y a les transmissions célèbres de grosses entreprises comme, bon, je le dis parce que vous êtes basé, vous, en Côte d'Ivoire, Petro-Ivoire, Sifka avec le clan Billon. Dans le fond, quel est l'enjeu économique sur un continent où le secteur informel domine, où le climat des affaires connaît de fortes disparités d'un pays à l'autre aussi? L'Afrique, c'est un peu comme l'Italie des PME familiales ou pas?
Ah oui, non, mais si, c'est un continent de PME et d'entreprises familiales. Et vous l'avez dit, en même temps, beaucoup d'entreprises sont informelles. C'est-à-dire on a 60-70% d'entreprises informelles parce qu'elles ne sont pas enregistrées. Donc, comment vous organisez une succession lorsque l'entreprise n'est pas structurée, n'a pas des règles de fonctionnement? Donc, c'est déjà un peu difficile. Deuxièmement, nous sommes dans des contextes où déjà les entreprises, donc des TPE, PME, ont du mal à croître pour toutes les raisons que vous savez. On en parle souvent dans l'émission. Donc, imaginez une TPE, une entreprise qui a déjà du mal à faire sa croissance, à accéder à du financement, à accéder à des ressources humaines, voir une organisation, etc., peut organiser une transmission pour la faire grandir, c'est compliqué. En revanche, vous avez des entreprises comme celle de Yannick, des grandes entreprises, vous avez dit Sifka, NCA, en Afrique du Sud, au Kenya, au Togo, vous en avez, au Sénégal aussi beaucoup, au Cameroun, où vous avez effectivement des vrais PME structurés, organisés, familiales, qui arrivent effectivement à faire des transmissions à condition que la préparation soit bien faite. Parce que vous savez, à peine 10% des transmissions sont réussies en réalité par les statistiques dans le monde. Donc, c'est déjà difficile une transmission pour différentes raisons, fiscales, organisationnelles, les salariés qui adhèrent pas, etc. Et puis aussi ceux qui prennent l'entreprise en charge et la même passion, la même fibre.
Oui, et qu'il ne s'agisse pas de népotisme.
Que le fondateur. Eh bien, c'est ça. Mmh. Donc, est-ce que c'est le mérite? Est-ce que c'est juste l'hérédité? Est-ce que c'est juste parce que c'est le fils ou la fille d'eux?
C'est une vraie question qui n'est pas si simple, hein, parfois. Alors, Yannick Nyakadja, vous avez repris l'entreprise de votre père dans le BTP, donc, qui est spécialisé dans l'électricité, dans le thermique. Vous êtes ingénieur thermique de formation, diplômé de la prestigieuse École des Mines en France, du CNAM. Vous avez fait d'ailleurs une grosse partie de votre carrière dans de grandes entreprises, des multinationales avec des postes élevés. Déjà, moi, j'aimerais savoir comment votre père, qui est aujourd'hui décédé, paix à son âme, a réussi ce coup de maître de vous faire, d'une part, revenir au Bénin et pour reprendre l'entreprise familiale.
Je vais commencer par dire, chez nous, on dit souvent que c'est la grâce de Dieu, donc si je peux me permettre d'exprimer ainsi. Je ne crois pas au hasard, je pense que finalement, dans la fibre familiale, il y avait un esprit d'entrepreneuriat. On est trois frères, être sorti ayant fait des études techniques, et une sœur qui ayant fait des études administratives. Et dans la continuité, je pense que mon père, initialement, il avait toujours souhaité, en tout cas, il souhaitait avoir une reprise de l'entreprise par ses enfants. Permettez-moi de faire un peu l'historique de l'entreprise.
En quelques mots.
C'est une très vieille entreprise. L'entreprise a une soixantaine d'années. Et initialement, c'était un peu les comptoirs avant de coloniaux. Donc, mon père a récupéré. Il est devenu actionnaire à partir des années 90, avec le départ de ses patrons, si je peux m'exprimer ainsi. Et des actionnaires. Donc, il est devenu actionnaire avec eux dans l'accompagnement jusqu'en 2005 où il est devenu actionnaire majoritaire.
Et c'est là que vous êtes arrivé.
Et nous, on est arrivé. Moi, je suis arrivé en 2005. Mon frère, une année après, mon jeune frère, après des études, après avoir été à des postes de responsabilité en France sur.
Mais qui a fait pression? Votre père, la famille, le clan, pour que vous rentriez et que vous repreniez l'entreprise?
Je pense que c'est pas que mon père. C'est la famille a fait pression, puisque la famille en parlait. Pas ouvertement, au travers des discussions, on avait droit, ce serait bien quand même d'aller voir ce qui se passe. Oui. Donc on avait déjà fait un premier voyage en 2000 pour aller voir ce qui se passait dans l'entreprise. Et puis il y avait les amis de mon père aussi qui mettaient la pression quelque part, et les banques.
Les banques.
Mon père était très ami avec le patron d'une des banques de la place. Et à chaque fois que je rencontrais le monsieur, il n'hésitait pas à me dire, bah, il serait quand même mieux de venir voir ce qui se passe chez vous.
Parce que les banques avaient compris aussi que vous étiez justement bankable en tant que diplômé des mines et puis avec grosse carrière déjà dans des multinationales en France. Mouni Konaté, vous êtes toujours PDG de la savonnerie parfumerie du Houet.
Oui, c'est ça.
Vous n'avez pas tout à fait l'âge de la retraite.
Bon, l'âge de la retraite, c'est 60 ans au Burkina.
Oui.
Mais bon, quand je travaille chez moi, j'ai 68 ans et je pense que dans une année, deux ans, si Dieu me donne longue vie, je vais passer la main aux enfants.
Et est-ce que vous y pensez tous les matins en vous levant à cette transmission familiale?
Sûr et certain, parce que tout peut arriver à tout moment. Personne n'est là pour l'éternité. Donc il faut vraiment, même si ça peut s'anticiper, il faut passer la main.
Alors, je précise qu'il y a deux de vos fils qui sont inscrits dans une formation d'administration de société, qui d'ailleurs est une formation qui a été prise en charge par Investisseurs et Partenaires, qui est un fonds qui a des parts dans l'entreprise, dans votre entreprise, hein, et qui sortira de l'entreprise en 2025 au moment, justement, de votre départ. Donc, je dirais que le fonds d'investissement qui est chez vous pense aussi à la transmission.
Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on est préparé pour passer la main. Parce que vu ce que nous avons monté, et Didier Akuté disait tout de suite, c'est difficile de transmettre une entreprise qui n'est pas bien structurée, qui est dans l'informel, etc. Nous, on est suffisamment bien structuré. On est depuis 2-3 ans une société anonyme avec toutes les règles de fonctionnement et un conseil d'administration. Et les enfants sont administrateurs avec moi, avec les représentants de Synergie Burkina. Et ça fait que réellement, il faut les former à être administrateurs théoriquement et dans la pratique et pouvoir en même temps gérer l'entreprise.
Oui. Donc, premier point, Mouni Konaté, donc vous venez de le rappeler avec votre exemple concret, hein, l'entreprise, il faut qu'elle soit le plus structurée possible pour réussir cette transmission. Ceci dit, pour vous Yannick Nyakadja, la reprise en main quand vous êtes arrivé en 2005-2007 hein, a été assez vite couronnée de succès dans la sous-région parce que l'entreprise était présente qu'au Bénin, vous avez monté une filiale au Togo, ensuite en Côte d'Ivoire. Sauf qu'en fait, l'entreprise était bien structurée. Avec votre père, il y a eu, au bout de quelques années, un désaccord profond sur la stratégie. C'était pas vraiment prévu, ça.
C'était pas du tout prévu. C'était deux générations différentes qui avaient un mode de fonctionnement qui leur correspondait. Et ça a été très compliqué au bout de deux ans. Parce que, bon, vous savez, quand vous avez un monsieur qui a toute sa vie travaillé dans l'entreprise, qui a construit l'entreprise, qui en a fait ce qu'il est, et du jour au lendemain, vous avez un petit jeune qui arrive qui dit non, ça marche pas comme ça. Ça devrait marcher autrement. On devrait aller plus vite. C'est très compliqué. Et je pense que...
Il trouvait que ça allait trop vite?
Ils trouvaient que ça allait trop vite et nous, on n'a pas été assez diplomates pour faire comprendre que finalement, ça n'allait pas assez vite, mais qu'il fallait pousser les tables et avancer le mieux possible, mais en conservant quand même ce qu'est la pratique africaine.
Donc
en l'occurrence.
Vous êtes parti et puis deux ou trois ans après, il vous a rappelé.
Oui, on est parti en 2013.
Avec votre frère.
Avec mon frère.
Vous avez claqué la porte.
On n'a pas vraiment claqué la porte, on a demandé l'autorisation. Parce qu'on ne claque jamais
c'est
la
ça.
Porte en Afrique.
C'est
on a demandé l'autorisation, même s'il n'a pas accepté. On est parti et puis trois années après...
Le vieux vous a rappelé, comme on dit.
Le vieux nous a demandé de revenir. Parce que le vieux sentait qu'il avait besoin finalement d'avoir du sang neuf, d'avoir des gens qui puissent être en contradiction avec lui. Parce que c'est extrêmement important d'avoir une contradiction dans la stratégie de l'entreprise. Il nous a rappelé, donc on est revenu.
Et là, il est devenu votre conseiller. C'est très beau en même temps.
C'est très très beau. Il est devenu mon conseiller parce que finalement, j'ai compris après... Après mon départ et après avoir eu d'autres expériences, rencontré d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise, en l'occurrence j'étais au Mali, j'ai un ami qui a eu les mêmes problèmes, qui m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. À Lomé, ça a été un peu pareil. Donc au retour, j'ai compris que finalement, il ne fallait pas faire sans lui. Et c'est important parce que dans les entreprises familiales, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est que l'entreprise se construit autour de la famille. Donc mon père avait ses frères qui étaient là. Et dans la brutalité de vouloir reprendre les choses en main, on a tendance à pousser tel frère. Mmh. Et les frères sont aussi des conseils. Donc, en dehors même d'être dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, ils sont présents.
Et il fallait faire de la place aussi à vos propres frères. Donc, c'est-à-dire la nouvelle génération. Mais à quel moment votre père a compris qu'il pouvait vous faire confiance et lâcher le contrôle au point de devenir votre conseiller de l'ombre, seulement, entre guillemets?
Il s'est rendu compte qu'on pouvait faire sans lui. ce qui est important. Ouais.
Parce que, le chiffre d'affaires, que la croissance était au rendez-vous.
Que la croissance était au rendez-vous. On avait pris quelques affaires sur Lomé. On avait la possibilité, sur Abidjan, on avait pris des affaires aussi. On avait des accords de partenariat avec des multinationales avec lesquelles on partait en sous-traitant sur des opérations. Donc, il s'est rendu compte que finalement, il fallait faire avec nous. Il était important qu'on revienne pour que l'entreprise familiale ne meure pas. Parce qu'après nous, il n'y avait pas grand monde. Enfin, il y en avait un de nos frères qui était encore présent, mais tout seul, il n'y arrivait pas.
Mais sur les désaccords générationnels, vous avez une vision, vous, de l'entreprise beaucoup plus horizontale. Hein. D'ailleurs, vous avez divisé l'entreprise pour en faire un groupe avec de petites entités, de petites PME, complètement, ou en tout cas assez indépendantes les unes des autres.
Totalement, oui. Initialement, quand mon père était au contrôle, c'était hiérarchisé, c'était patriarcal. De là où il donnait les ordres, et puis ça redescendait en bas. Et nous, on exécutait, on donnait des conseils, on remontait l'information vers lui en termes de décision avant de la prendre. Ce qui ne supportait pas, ce que nous, on n'acceptait pas, ce qu'il trouvait totalement normal, lui, parce qu'il estimait que, vu l'âge et l'expérience, c'était lui qui avait la solution, c'était lui qui était capable, en l'occurrence, de diriger. Donc après, bon, aujourd'hui, on fonctionne autrement. Moi, je ne suis pas le décisionnaire, je suis dans la stratégie, j'ai des gens qui sont là pour gérer toute la part, la gestion commune de l'entreprise. On a un directeur délégué, on a des directeurs de structures indépendantes qui rendent compte. Et ce qui est important, c'est le résultat et surtout le carnet de commandes.
Mmh. Et la responsabilisation comme mode de management.
Exactement. Ouais.
Écoute, par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai dit là, c'est important que...
8 milliards de voisins. On est ensemble.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et Moumouni Konaté, vous, comment vous mettez vos fils à l'épreuve de la gouvernance? Est-ce que, bon, on a vu que Yannick Nyakadja a eu quand même une certaine pression familiale et une pression business pour rentrer dans l'entreprise familiale?
Oui, merci beaucoup. Mais je suis bien heureux d'entendre ce monsieur qui parle de leur expérience, des conflits de génération et autres. Et moi, il n'y a pas ce problème, parce que les enfants sont toujours au Burkina, on a toujours travaillé ensemble, on connaît tous le terrain. Mais je vous ai dit la dernière fois, il faut bien donner la responsabilité, faire comprendre aux jeunes qu'ils ont la responsabilité de ne pas échouer.
Oui.
Et qu'ils doivent avoir un défi à relever. Faire mieux que leur papa.
Si vous me permettez, Moumouni Konaté, vous me dites, il n'y a pas de problème générationnel, mais peut-être faudrait poser la question à vos fils.
Oui, bon, c'est vrai. Et c'est pourquoi je vous ai dit aussi que moi, dès que je vais partir, je partirai définitivement. Je ne suis pas là comme conseiller ou quoi, etc. Mmh. Parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Hein. Il faut qu'ils sachent à quoi ils s'engagent, prennent leurs responsabilités et que le défi qu'ils doivent relever soit bien clair dans leur tête. Et qui travaille dans ce sens. À partir de ce moment, moi, je ne toucherai plus.
Ouais. Mais justement, comment, puisque le choix de la succession n'est pas encore décidé entre vos deux fils aînés, oui, je précise que vous avez aussi deux autres enfants adolescents hein, qui peut-être pourront prendre encore la suite, mais comment vous écartez la possibilité d'un conflit fratricide pour reprendre l'entreprise?
Bon, il n'y a pas de conflit fratricide parce que les frères ne doivent pas s'entretuer et tuer la poule aux œufs d'or. Ils ne sont pas malades pour faire cela. Le travail est bien organisé et bien partagé. Mmh. Et c'est une équipe qu'il faut faire fonctionner et motiver et tenir compte de l'intérêt de tout le monde. Parce que sans l'intérêt de tout le monde, tout est fini.
Mmh. Y compris de l'intérêt financier, parce que là aussi, il peut y avoir des jalousies.
C'est justement l'intérêt financier qui détermine tout. Parce que le bien qu'ils sont en train de gérer ne leur appartient pas à eux seuls, ça appartient à toute la famille et aux actionnaires privés qui ne sont pas de la famille.
Mmh.
Donc, par conséquent, c'est assez important pour eux d'éviter de mettre cette entreprise dans des situations difficiles.
Yannick Nyakadja, est-ce que vous avez eu quand même cette difficulté où l'affectif se mélange aux affaires?
Totalement. Mais le cas de M. Konaté n'est pas si mal que ça, parce que dans l'entreprise, il n'est pas seul. Ils ne sont pas seuls, la famille n'est pas seule. C'est-à-dire que la famille est accompagnée d'un fonds. Donc, on n'est pas dans le même contexte. Nous, on était à 97% entreprise familiale. Donc, c'est-à-dire qu'autour de la table, on se retrouvait que les frères et sœurs, plus le père, et c'était assez compliqué. Aujourd'hui, c'est différent.
Le dîner du soir,
le dîner du dimanche, le déjeuner du dimanche, autour de la table.
Alors, on parlait de quoi?
On parle de l'entreprise. On parle de tout, mais on parle de l'entreprise essentiellement. Et la belle preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a, dans la dynamique dans laquelle on est, l'entreprise n'est plus totalement familiale. Elle est à 70% familiale et 30% restant, c'est des tiers qui sont venus en termes d'actionnariat. Donc, la gouvernance n'est plus du tout la même, l'approche n'est plus la même. Et même pour prendre une décision aujourd'hui, stratégiquement, on la soumet. C'est-à-dire, en début d'année, on soumet au conseil d'administration, en l'occurrence, les décisions fortes à prendre, et elles sont validées, et comme ça, on opère simplement. Donc, moi, je suis fort de conseil, mais je ne suis pas fort de décision, puisque la décision appartient au directeur délégué.
On entend dans ces deux témoignages, hein, Didier, à côté, que ce qui compte, c'est quand même le business. Hein. Il faut que ne pas tuer la poule aux œufs d'or, comme nous disait Moumouni Konaté. Ça veut dire que c'est d'abord le mérite qui prime, hein, le travail, la force de production, finalement, avant le sens de la famille?
Je pense que les deux vont de pair, si vous voulez. Je pense qu'à quelqu'un qui crée une entreprise, qui veut la pérenniser, d'abord c'est parce qu'il fait confiance à ses enfants. Il se dit, mes enfants
ne me trahiront pas,
sauront pérenniser ce que j'ai bâti, ce que j'ai bâti à la force des poignets. Donc il y a une question de confiance qui est importante. Ensuite, il y a une question de pérennité, donc qui passe par le business. Et c'est là où peut-être... certains parents qui transmettent surestiment la capacité de leur enfant parce qu'ils vont privilégier l'affect et la filiation en se disant ils y arriveront, et c'est là où ça devient compliqué, mais c'est le business in fine qui dirige complètement. Et ceux qui ont effectivement, comme M. Konaté, un fonds d'investissement qui est dans son tour de table, forcément, ça renforce la gouvernance, ça renforce l'organisation, ça renforce les processus de décision. Et donc, les enfants ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus, même si la famille est majoritaire. Donc, de temps à autre, et peut-être en introduction, on parlait de ces PME africaines qui sont en pleine croissance, de temps à autre, c'est bien aussi de faire venir des partenaires autour de la table dans les entreprises familiales pour équilibrer un petit peu les décisions qui parfois sont trop orientées affect et pas assez business.
Ouais, avec des histoires de famille, évidemment, que les personnes extérieures ne connaissent pas. Moumouni Konaté et Yannick Niakadja, en quelques mots, dites-nous quels sont selon vous les deux ou trois points essentiels à retenir pour une transmission d'entreprise réussie. Moumouni Konaté, un ou deux points pour vous?
Bon, mais vraiment, je suis heureux de participer. Mais ce que je veux vous dire, le point essentiel, c'est l'importance et la responsabilité. Il faut que les jeunes qui prennent la relève sachent que c'est leur responsabilité qui est très engagée et ils doivent travailler de telle sorte que l'entreprise continue à évoluer et à grandir. Cela va de leur honneur, comme aussi de l'honneur de leur papa ou de leur géniteur. Donc, il faut absolument qu'ils soient compétents.
Qu'est-ce qu'on dit chez vous, Moumini Konaté? Il n'y a pas un proverbe, non, sur les fils par rapport à leur père?
Oui, bien sûr, ils sont tenus de faire mieux que leur papa. C'est ce qu'on leur dit depuis le début de leur vie, etc. Et chacun s'engage à être mieux que son père.
Ouais.
Donc, par conséquent, ils ont l'occasion d'avoir une entreprise comme la nôtre. Ils doivent tout faire pour que l'entreprise grandisse et après leur papa, que l'entreprise double, triple, etc.
Encore mieux que vous pour la savonnerie, donc, du Houé. Yannick Niakadja?
En deux mots, je pense que la passation, elle doit se faire. Je dirais qu'elle se fait sur du long terme. Elle se fait pas, on prend pas un fils, on le positionne. Je pense qu'il faut, il y a tout un process auparavant, donc elle se fait sur du long terme. Il est important, en tout cas, de l'intégrer dans l'entreprise, qui commence par le bas et qui remonte, ce qui n'a pas été notre cas à nous. Et aujourd'hui, si moi je voulais le faire, je ferais exactement le contraire. Ma fille, elle est diplômée, elle est ingénieure thermicienne. Comme par hasard. Donc, donc elle commencerait par le bureau d'études et puis au fur et à mesure, elle évoluera dans l'entreprise. Elle partira même pour. Elle va pas. Je forcerai à ce qu'elle parte et qu'elle revienne.
Ouais. Mais là, elle est dans une multinationale française.
Oui, hein.
Donc,
on y arrivera.
C'est pas gagné pour la faire rentrer.
On y arrivera.
Yannick a fait le même parcours, donc on peut lui faire confiance.
Donc, le deuxième point, surtout, c'est. Vous savez, l'entreprise, c'est. L'entrepreneuriat, c'est. C'est fortement l'envie de toujours aller de l'avant. Et je pense qu'il y a aussi ça qui est extrêmement important. l'envie de se dépasser et l'envie surtout d'aller de l'avant qui est extrêmement important.
Et la diplomatie aussi, hein. Ménager les affects
très
du vieux, c'est ce que vous attendez de vos enfants, bon, qu'ils vous ménagent.
Plus maintenant, parce que finalement je suis passé par là, donc j'ai compris comment ça fonctionnait.
Merci en tout cas à tous les trois. Merci Yannick Nakadja, directeur général de CEIB, Société Béninoise d'Électricité Industrielle et Bâtiment. Et merci à vous, Mouni Konaté, d'avoir été en ligne de Bobo Dioulasso. Vous êtes le fondateur et dirigeant de la savonnerie parfumerie du Houé, société de produits d'hygiène.
Merci, merci à vous.
Et merci à vous, Didier Akwété, PDG d'Afrique Search. On vous retrouve le mois prochain.
Normalement.
Répondre aux questions d'un jeune patron de l'Afrique qui gagne, bien sûr. Et puis ensuite, pour le débat avec des PME du continent. On se quitte avec Negrito, Fraîche la douille. Le titre Clan est à retrouver sur la playlist de RFI Musique.
Là-bas, je suis sûr qu'il y a les keufs sur le rond-point. Sur moi, j'ai plus de points. Et sur mon siège, j'ai une arme de poing.
Mauvais ce qu'il a vérifié, le placard à deux doigts. Tourner, c'est méchant, surtout quand c'est freine. Ça pense au bénéf, au détail sur du doigt. Nous, quand on est lancé, personne ne nous freine.
Il fait les gens sains, ils ont pas coffré cet hiver. J'ai souffert, mais l'argent, j'ai su faire.
Bloqué dans le cublot, était comme hiver. L'argent que j'ai pu faire, tenté par Lucifer.
C'est la rue, c'est pas l'île de l'attentat. Souviens de la tente des cartouches, des détonations.
Impliqué, je peux béton pour des tensions. Ça la récupère jusqu'à sa plantation.
C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai vu. Pas besoin d'aller chez l'opticien. Je connais le début, mais je connais pas la fin. Y'a que le blé qui peut calmer ma faim. Y'a pas que chez le boulanger
que tu peux récupérer des pains. Quand y'a de l'oseille, on est plein.
Je suis à la station, crois j'ai mis le plein. T'es bête ou quoi?
Tu me cherches dans la zone. Ça fait plus de livraison qu'Amazon.
On est dedans, tu crois que c'est un jeu? Quand c'était noir, nous on vendait le jeu.
T'es bête ou quoi? Tu me cherches dans la zone. Ça fait plus de livraison qu'Amazon.
On est dedans, tu crois que c'est un jeu? Quand c'était noir, nous on vendait le jaune. Rien que tu pénaves, tu pars dans le vent. Pour l'argent, pas t'appelles mon camp. Si c'est la guerre, choisis ton camp. Double siècle, et moi je connais mon clan. Rien que tu pénaves, tu pars dans le vent. Pour l'argent, pas t'appelles mon camp. Si c'est la guerre, choisis ton camp. Double siècle, et moi je connais mon clan.
Enculé, je suis dedans, faut faire du papier. Combrosson ou pas, ça mange mes mouilles à papier. À terre, donc tu comptes sur les poches du poteau. Et gommer mon tôle, je faisais ma peine sur un pied.
Je m'en rappelle, je partais visser les Yankees à pied. Même sous la pluie, nique sa mère, je partais prendre mon billet. L'argent est sale, mais je suis bien habillé. Malgré les coups du rigot, j'ai pas brillé.
J'ai reconnu la haine, son tadji, qualité fait la clientèle. J'ai commencé à sec. Connais les codes, on va pas parler de kilo hôtel.
J'ai big up les clients qui ramènent d'autres clients. Y'avait pas d'assurance ni de carte grise, mais nique sa mère, j'prenais le client.
Prenais le client, j'récupère le kilo incognito, ça vient de livrer dans le 7-7.
Le temps passe, faut que j'investisse dans l'immo, dans la cahier, j'ai trouvé des grammes de 16.
Un direct du 9-4, trafic, violence, agression. Tu connais les quartiers sous tension, attention, dehors que des commissions. Tu peux glisser si t'es sous la mission.
T'es bête ou quoi?
Tu me cherches dans la zone, ça fait plus de livraison qu'Amazon.
On est dedans, tu crois que c'est un jeu? Quand c'était noir, nous on vendait le jeu.
T'es bête ou quoi? Tu me cherches dans la zone, ça fait plus de livraison qu'Amazon.
On est dedans, tu crois que c'est un jeu? Quand c'était noir, nous on vendait le jaune. Rien que tu pénaves, tu pars dans le vent. Pour l'argent, pas t'appelles mon camp. Si c'est la guerre, choisis ton camp. Double siècle, et moi je connais mon clan. Rien que tu pénaves, tu pars dans le vent. Pour l'argent, pas t'appelles mon camp. Si c'est la guerre, choisis ton camp. Double siècle, et moi je connais mon clan.
Le voisin.
C'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Même si géographiquement on est effectivement dispersés,
on existe ensemble.
8 milliards de voisins. N'oubliez pas de télécharger les émissions que vous aurez manquées. Tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement, notamment sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, 8 milliards de voisins, que devient Harlem? Le célèbre quartier afro-américain de New York, emblème des luttes raciales. Cette mémoire peut-elle résister à la flambée des prix de l'immobilier, à l'arrivée de nouveaux habitants depuis plusieurs années? On en discute demain avec Charlotte Coquillon, géographe spécialiste des États-Unis. À demain les voisins et les voisines.